une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Bonsoir à tous et à toutes.
Bonsoir à toutes et à tous aussi.
Et nous sommes le jeudi 1er septembre 2022. Nous sommes tous les deux très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de ce Canu Info du jeudi. Donc on vous rappelle, ou on vous le dit si vous nous écoutez pour la première fois, qu'il y a des équipes différentes tous les jours de la semaine, 19h-20h pour une petite plage d'actualité donc sur Radio Canu. Voilà, de l'info. Chacun et chacune se débrouillant avec sa plage horaire. Nous sommes donc contents de vous retrouver. On va vous parler de plein de choses ce soir. De quoi nous allons parler, tu sais, toi?
Ah, c'est moi qui dois dire?
Oh, bah tu peux, si
tu vas faire une intro, je crois.
Oh, et bon, après, je vais dire deux, trois petites
choses. Nous aurons une rubrique internationale, une rubrique nationale et une rubrique locale. Voilà. Ouh. Et au milieu de tout ça, plein de choses, vous verrez.
D'accord, alors oui, c'était juste pour dire qu'il se passe toujours plein de choses, mais d'abord j'aimerais vous rappeler que c'est la rentrée scolaire et que comme chaque saison, nous sommes obligés de rappeler que des enfants vont encore dormir dehors pour cette rentrée scolaire. Alors si vous avez envie, vous pouvez suivre le collectif Jamais sans toi, un collectif local qui chaque année malheureusement doit encore s'agiter pour aider des familles à se loger. On a des occupations d'école toutes les années, des enseignants, des instits et des profs qui sont fatigués chaque année hein, à Noël après quelques mois et quelques semaines de bataille. Par le fait de devoir soutenir ces familles, parce que chaque saison c'est la même chose, on a les mêmes problématiques. Donc voilà, c'est des collectifs comme Jamais sans toi qu'il faut soutenir et évidemment suivre sur les réseaux sociaux si vous êtes dessus, mais si vous avez des enfants aussi, c'est peut-être l'occasion de vous adresser aux enseignants et puis de voir un petit peu s'il y a des familles qui ont besoin de soutien, de solidarité, et puis aussi peut-être d'haranguer encore une fois les collectivités, que ça soit la métropole, les villes ou évidemment l'État, dans leur rappeler qu'il y a des obligations légales et que ça serait bien d'héberger ces enfants pour qu'on arrête de laisser des enfants gâcher hein, cette scolarité et gâcher surtout leur vie. Voilà, j'avais envie d'ouvrir avec ça. Il s'est passé plein de choses hein, pendant notre absence, oulala, tellement de choses. Il y a toujours la guerre hein, en Ukraine, la Russie est toujours là-bas. Alors il y a des États hein, comme la Lettonie qui commencent à faire tomber leurs monuments de l'ère soviétique.
Oui, ils n'avaient pas tout enlevé, je suis assez étonné d'ailleurs.
Non, mais on en trouve encore hein, pas mal de ces documents, de ces monuments, excusez-moi, parce que c'est aussi des monuments qui vantaient les mérites de la libération et des camarades soviétiques en l'occurrence.
De la libération après la Deuxième Guerre mondiale.
Exactement, ouais. Et ces monuments étaient là parce que c'était aussi des monuments pour les Lettons et les Lettones, par exemple, qui avaient aidé à la libération hein, du pays. Et puis, là, il y a quand même un mouvement hein, de désolidarisation avec la Russie assez marqué, et en particulier dans ces pays baltes. Et donc, il y a des monuments qui tombent, et c'est le cas en Lettonie, par exemple. Et puis, il s'est passé plein de choses. Alors, on a eu, hein, nous, la semaine dernière, on a fait y venir, et puis on ne l'a pas fait, mais on vous aurait parlé hein, quand même des déboires de Doctolib, parce que ça nous a fait bien marrer, quand même, cette affaire. Et puis parce qu'on s'en serait pris aux naturopathes, parce que c'est encore une de ces fausses sciences qui malheureusement est extrêmement présente et qui est même présente auprès de médecins légalement constitués, des médecins naturopathes, un peu comme les médecins qui se font de l'ostéopathie et qui sont homéopathes. Cette double étiquette. En tout cas, Doctolib s'est fait pas mal taper dessus et continue encore à se faire taper dessus. Et ça, c'est aussi intéressant à suivre parce qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux qui continuent à balancer tout ce qu'on trouve sur Doctolib, hein, c'est-à-dire du Reiki, de la sophrologie, des trucs où il faut boire son urine. Et puis évidemment, on a eu hein, quand même cette fronde qui s'est levée quand même contre cette naturopathe, hein, Irène Grosjean, qui
est une star.
qui est une star dans la naturopathie, effectivement.
Et qui propose de guérir les enfants avec des attouchements sexuels.
Ouais, mais qui propose aussi guérir son cancer par des légumes crus, qui explique que si on a le sida, ouais, mais c'est parce que ça, c'est aussi, tout est notre faute, hein, il faut quand même le savoir. Donc, il faut aller au plus profond de soi. Donc là, il y a aussi tout un mouvement, hein, peut-être qu'avec ces tronteries, on peut s'y mettre à plein, hein, pour lutter contre ces mouvements sectaires, cette fausse science, tous ces mouvements, ce qui sont aussi des escrocs, hein, voilà.
Y a parce que le but, c'est quand même de gagner de l'argent avant tout, hein. Que ça soigne pas les gens, mais ça permet de gagner de l'argent.
Et puis vous savez que on n'aime pas trop les voitures, hein, dans cette émission, si vous nous suivez depuis quelques années. En particulier, toi, Laurent, tu aimes bien prôner le vélo, la marche à pied aussi, les transports en commun, et puis taper sur cette voiture qui pollue en ville. Moi, je voudrais juste revenir sur cette habitude qu'on a dans la presse dès qu'il y a un accident de voiture. Et c'est arrivé donc avec ces deux jeunes personnes qui étaient à trottinette à Lyon, qui sont décédées, hein, le lundi 22 août, après avoir été percutées, nous dit-on, par une ambulance. Hein, ce sont donc des gens qui sont percutés par une voiture, un véhicule, un camion, un bus, une ambulance.
Donc une machine.
Par une machine, et non pas par un conducteur ou une conductrice. Humain, ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve constamment dans les médias, et ça aussi, ça serait bien que ça s'arrête, hein, pour cette nouvelle saison médiatique, qu'on arrête de mélanger l'être humain et la machine. Il y a quelqu'un qui conduisait cette ambulance.
Ils ont été percutés par un être humain. C'est l'être humain qui leur a rentré dedans par l'intermédiaire de la voiture. Et c'est donc, pas la voiture toute seule.
Voilà, et c'est pas la trottinette qui a été percutée par une ambulance, hein, puisque c'est écrit en plus comme ça, hein, on l'a retrouvé dans plusieurs presse écrite, alors, cette idée que c'était donc un garçon et une fille percutés par une ambulance privée. Alors ça, c'est des propos qui ont été d'abord cités par un responsable des pompiers, le responsable des pompiers du département, qui ont été repris très facilement dans cette presse, mais c'est quelque chose qu'on trouve toujours. Oui. Quand la voiture, elle tue, c'est la voiture qui tue, c'est pas le conducteur ou la conductrice.
Voilà, c'est pour déshumaniser, pour déresponsabiliser les conducteurs et conductrices, bien évidemment. Mais peut-être qu'un jour, on sera obligé de dire ça, parce que ce sera des trucs autonomes.
Voilà, enfin, c'était juste une petite intro. Il s'est passé évidemment beaucoup de choses depuis que nous sommes absentés. Il s'en passera encore plein d'autres. Même quand on vous raconte des choses, vous savez qu'on ne parle pas de tout. Mais on va continuer, on va commencer tout de suite et continuer cette émission en passant du côté de l'international, et on va parler d'élections en Italie.
Oui, puisqu'il y a un enjeu important qui est en train de d'arriver pour l'Italie, hein, qui n'a plus de gouvernement, je vous le rappelle. Et on a des petites batailles à l'extrême droite. Alors, la première, c'est celle qui s'est exprimée, c'est Giorgia Meloni. Elle a dit, je cite, « Un État sérieux surveille et défend ses frontières. Je ne me lasserai jamais de le répéter. La seule façon d'arrêter l'immigration clandestine est le blocus maritime, c'est-à-dire une mission européenne en accord avec les autorités africaines. Il n'y a que ça que l'on pourra, avec ça, il n'y a qu'avec ça que l'on pourra mettre un terme au départ illégaux vers l'Italie et les tragédies des morts en mer, parce qu'elle raccroche aux tragédies. Donc, voilà, c'est assez classique, hein, ce genre de propos de la part d'extrême droite. Mais bon, voilà, on la connaît pas bien, Giorgia Meloni. Donc, c'est la chef du parti qui s'appelle Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia. Donc, ça, c'était le dimanche dernier, on était le 28 août, c'était sur son compte Instagram. Alors, cette néofasciste est à l'offensive, hein, sur le thème de l'immigration, mais c'est un thème porteur, malheureusement, en Italie en ce moment, dans cette période d'élection. Voilà. Alors, les journaux, même ceux qui sont pas ultra de droite, ils en parlent quand même. Et du coup, ça fait monter l'impression que c'est un sujet important. Par exemple, on a l'Expresso qui disait, bah oui, c'est un sujet au cœur de l'actualité, car 45 664 personnes ont débarqué sur les côtes italiennes début août. Enfin, sur les 15 premiers jours d'août. On se dit, bon, 45 000, c'est peut-être beaucoup. Bon, après, ils sont 60 millions, ça fait moins de 0,08% de population en plus. Hein. Donc, c'est quasi négligeable. Mais on met ça en avant, même quand on est un journal pas trop à l'extrême droite ou pas trop à droite. Voilà. Alors, ce qui est symptomatique, c'est que ce qui se passe en Italie, il se passe aussi chez nous, ça se passe aussi en Suède. Hein, on a une forte montée de l'extrême droite aussi. Et ce que dit Giorgia Meloni, il faut retenir son nom parce qu'il y a un fort risque, hein, qu'elle arrive au pouvoir. En fait, elle ne fait que reprendre ce que disait son parti, donc Fratelli d'Italia, qui avait détaillé l'année dernière quelque chose, enfin dans un document, sa vision en fait, de la fermeture des frontières de Schengen. Et ils avaient dit, je vais citer un extrait de l'article, enfin du document, ils disaient « L'Union européenne dispose de tous les arguments nécessaires pour convaincre la Libye, c'est le principal pourvoyeur de migrants, enfin le lieu de passage, on va dire, la Libye de collaborer à un blocus. Il suffirait, par exemple, de verser à la Libye la même somme que l'Union européenne a versé à la Turquie pour contrôler le flux de migrants, qui a été assez efficace, effectivement, mais qui est totalement horrible, hein, puisque il y a plus de possibilités, enfin très peu, en passant par la Turquie, d'arriver en Europe. Donc voilà ce qu'ils envisagent, en fait. C'est d'externaliser un petit peu ces frontières et de laisser la responsabilité aux pays qui sont les pays intermédiaires dans les flux migratoires qui sont pas énormes, hein, on vous rappelle, hein, on parle de quelques dizaines de milliers de personnes. Alors, donc ils proposent, ils vont plus loin, hein, son parti, de mettre ce qu'ils appellent des hotspots, donc de mettre des zones à l'étranger, donc en Libye, dans d'autres pays, qui seront les lieux d'enregistrement des futurs migrants. Et là, il faudra avoir amené un truc pour être accepté. Alors, ça va être compliqué, hein, parce que pour être accepté, il va falloir faire un métier que personne fait, où il y a de la demande, un truc comme ça. Hein. Donc, l'idée, c'est de faire ça, hein, comme l'Angleterre avait déporté sa frontière dans le nord de la France. Là, l'idée, dont tu n'as pas le monopole, hein, ce parti d'extrême droite italien, c'est d'externaliser au maximum l'arrivée des gens qui voudraient rentrer sur le territoire européen. Donc, c'est un plan assez classiquement xénophobe. Est-ce que ça peut passer? Alors, c'est toujours compliqué parce qu'il faut l'adhésion d'une grosse quantité de pays, puisque le but c'est de le faire au niveau de l'Europe. Mais c'est pas impossible. Il y a déjà eu des accords bilatéraux avec la Libye en 2017. Il y a ce fameux truc horrible qui a été signé avec la Turquie il y a quelques années. Donc, c'est pas impossible. Mais, heureusement, dirais-je, il y a des problèmes légaux qui apparaissent. Ainsi, si l'Italie signait un accord avec la Libye pour bloquer les départs, donc empêcher les gens de partir de la Libye, ça a un nom, ça, c'est illégal, puisque on n'a pas le droit, dans le droit international, d'empêcher quelqu'un de sortir de son pays, ou de sortir d'un pays quelconque. Donc si on mettait ça en place, mais bon, ça a été fait en Turquie, hein, quelque part, c'est illégal. Alors, comme c'est rarement condamné, malheureusement, ça ira peut-être pas plus loin que ça. Et là, il y a une deuxième chose importante qui a été rappelée par un professeur de droit pénal italien qui dit, attention, si on fait ça, ça veut dire que le droit d'asile n'existe plus. Puisque le droit d'asile, c'est-à-dire qu'on peut arriver et faire une demande d'asile. Et la demande d'asile, si elle n'est pas acceptée, on peut faire un recours devant les tribunaux. Donc, mais il faut être dans le pays. Si jamais ça se passe, par exemple, en Libye, vous allez avoir le droit d'asile qui vous sera refusé, mais il n'y a pas de recours parce que vous êtes sur le sol libyen. Donc ça casse le droit d'asile. Donc voilà, il y a eu quand même des réactions du coup à gauche dans les journaux et parmi des personnalités de gauche en Italie suite à ces propositions. Et le plus bizarre, quelque part, mais c'est de l'instrumentalisation politique, c'est qu'un autre militant d'extrême droite, très connu, Matteo Salvini, lui a été contre aussi la mesure qu'elle propose. Il dit mais non, mais en fait il suffit de remettre les décrets que j'avais fait voter, les qui s'appelaient les décrets sécurité, qui ferment tout au niveau de l'Italie et voilà, on n'aura plus de problème. Alors ce qu'il fait en fait en disant ça, c'est dire regardez, moi j'avais fait voter des trucs xénophobes. Si vous voulez à nouveau fermer les frontières, c'est moi qu'il faut appeler, car il y a une bataille au niveau de cette élection entre tous les partis et aussi entre les deux partis d'extrême droite, donc le parti de Matteo Salvini et le parti de Giorgia Meloni. Aujourd'hui, c'est Giorgia Meloni qui est en tête de tout, hein, et qui risque de devenir la première ministre, c'est-à-dire en Italie, ça s'appelle le président du Conseil. Donc il y a quand même une grande chance. Pendant ce temps, pendant que ces petits fachos italiens essayent de fermer les frontières, bah il y a comme d'habitude le navire l'Ocean Viking, là le navire humanitaire de SOS Méditerranée, qui récupère des gens soit sur des frêles esquives, soit en train de se noyer. Et qui sait pas quoi faire parce que personne veut d'eux. Donc là actuellement le bateau, ça fait à peu près une semaine, hein, il transporte 466 personnes de 19 nationalités différentes, hein, Bangladesh, Égypte, Tunisie, Érythrée, entre autres, 21 femmes, quelques-unes enceintes, 81 mineurs non accompagnés, donc beaucoup non accompagnés, pas tous. Voilà. Et Et ils attendent. L'Italie, pour l'instant, n'a pas accepté, donc ils demandent à tout le monde pour savoir où débarquer, puisqu'ils ont sauvé ces gens de la noyade, ou de la mort, hein, carrément, dans des situations souvent très compliquées, hein, quand ils récupèrent des gens qui sont dans des situations de détresse importantes. Ils sont restés plusieurs jours en mer, voilà, sans des fois sans boire. Voilà, donc la situation reste critique sur le bateau, même si les conditions ne sont pas les pires, puisque c'est un bateau qui tient la route, celui-là, enfin qui tient la mer en tout cas. Mais ils sont toujours en attente d'un port. Ça fait quasiment 6 jours, hein, que je crois qu'ils attendent une réponse de l'Italie et puis d'autres pays. Voilà, rappel, hein, c'est à peu près 1161 migrants qui sont morts dans la Méditerranée, notamment dans la Méditerranée centrale, il y en a 918. C'est cette Méditerranée centrale, hein, qui est la route migratoire la plus dangereuse du monde, hein. C'est un terme officiel qui a été dit, annoncé et démontré par l'Organisation internationale des migrations. Et c'est ces gens qui en prennent des bateaux au départ de la Libye et qui essayent d'arriver notamment vers l'Italie. Voilà. Alors, pas sûr qu'une solution xénophobe, comme c'est proposé, ne résolve quoi que ce soit. D'ailleurs, on n'est même pas sûr, même pour les fachos, que ça empêche ces pauvres migrants de mourir ou de venir. Hein, puisqu'ils sont dans des situations désespérées et ils sont prêts à risquer leur vie pour ça. Mais ça, il faudrait un peu d'humanisme dans l'extrême droite. Et si on est humaniste, ben, on ne peut pas être d'extrême droite.
La Lituanie, hein, ces pays baltes qui aujourd'hui fait front face à la Russie, par exemple en refusant, hein, de délivrer des visas aux Russes, c'est la discussion qu'il y a en ce moment, hein, au sein de l'Union Européenne et des différents pays sur le fait d'accorder ou non des visas aux Russes, des visas touristiques et des visas aussi pour les finances. On a cette Lituanie qui est toute fière d'avoir annoncé cette semaine qu'elle a fini son petit mur grillagé avec la Biélorussie.
C'est génial.
Et alors, c'est pas la Biélorussie amie de la Russie dans le cadre de la guerre contre l'Ukraine. Non, le propos ici, c'est bien d'empêcher des migrants et des migrantes de traverser cette frontière. La Lituanie sait qu'elle se met en porte-à-faux avec des réglementations internationales et européennes, mais s'en fiche pas mal et se dit qu'elle verra bien comment tout ça va se passer. Alors, je vais continuer avec un sujet que nous avons déjà parlé ici. C'est la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Je vous rappelle que cette Coupe du Monde, elle va se dérouler du 20 novembre au 18 décembre, donc au Qatar. Qatar, pays frais, aéré. C'est bien pour ça qu'on fait ça d'ailleurs en hiver, hein, parce que sinon l'été, il aurait vraiment fait trop frais, hein. C'était problématique. Donc le Qatar est déjà critiqué depuis pas mal de temps, hein, excusez mon ironie et mon sarcasme, pour construire des stades qui vont être réfrigérés, aérés, climatisés, de faire aussi ces stades sur le dos de travailleurs étrangers, parfois réduits à l'état d'esclavage, hein, on leur a pris leurs papiers, et puis on a appris donc, hein, cet été que lors d'une manifestation, c'était le 14 août dernier, il y avait à peu près 50-60 travailleurs de ces chantiers du stade et d'autres, hein, travailleurs, hein, parce qu'il y a toute une construction qui s'est faite au Qatar, hein, autour de ces stades. Il y a évidemment des routes, des complexes hôteliers, il y a des services de déplacement, donc c'est tout un pays qui s'est construit et qui se développe avec cette Coupe du Monde. On a donc appris qu'il y a une manifestation, Jean Bafou, le 14 août dernier, deux travailleurs qui réclamaient leur argent, tout simplement. Et ils se sont retrouvés devant l'entreprise El Bandari, c'était à Doha, et ils ont eu quelques soucis puisqu'ils ont été arrêtés et expulsés. Alors c'est ce qu'on a appris, hein, de la part d'ONG au niveau international, qui se sont installées au Qatar, en tout cas en tant qu'observatrices, hein, ces ONG, et qui donc ont rapporté ces expulsions. Alors du côté du Qatar, on dit, bah non, ils ont été violents. Alors qu'est-ce que ces travailleurs ont fait? C'est qu'ils ont bloqué la circulation.
Ah, c'est attends, violent, ça, ouais.
Ça, c'est une belle violence quand même, hein. Manifester au Qatar pour ces travailleurs immigrés, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, il faut quand même le souligner. Et là, on a eu une réponse, une répression exceptionnelle, c'est que, hop, on les a expulsés, ils ont été renvoyés chez eux. Alors, c'est une situation qui n'est pas nouvelle, hein, c'est le fait de critiquer la situation de ces travailleurs immigrés, mais en tout cas, l'intérêt en tout cas de ces ONG, c'est qu'elles ont beaucoup surveillé, parce qu'il y a eu aussi des décès. Je vous le disais, certains y a eu un certain nombre de décès, et puis un certain nombre de papiers qui ont été pris hein, par les entrepreneurs. Et puis là, on a quand même, on apprend hein, quand même qu'il y en a qui n'ont pas été payés depuis 7 mois. Donc c'est quand même une Coupe du Monde qui se fait réellement hein, sur le dos de ces travailleurs, parce que là c'est de l'esclavage, on les fait travailler sans les payer. Alors du côté du Qatar, on explique que quand même on a vachement amélioré les conditions de travail. Et que c'est une vraie communication. Tu rigoles, mais c'est une vraie communication.
Donc, avant, dire... c'était systématiquement des esclaves. Maintenant, c'est de temps en temps des esclaves.
Ouais, c'est et puis bon. Voilà. Alors, on rappelle aussi que le Qatar est quand même critiqué aussi pour son conservatisme religieux, en particulier auprès de, oui. des groupes LGBT.
Ah oui, ils sont officiellement homophobes.
Hein. Ah, ça, c'est très, très clair. Donc, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles on pourrait boycotter cette Coupe du Monde.
Ouais, il y a plein d'appels, mais...
Alors, il y a toujours les raisons hein, pour les compétitions sportives. On peut boycotter parce que le patriotisme, ça ne nous intéresse pas. L'argent qui est dépensé, le capitalisme qui en découle, l'environnement, on a déjà ça depuis un certain nombre hein, maintenant d'événements sportifs, que ça soit sur les JO et les Coupes du Monde de foot, par exemple. Mais puis, il y a évidemment la problématique des êtres humains. Et des droits des êtres humains. Alors, on a par exemple des soutiens, évidemment, et des gens qui critiquent. Alors, on a David Beckham, footballeur, qui lui a tourné une campagne publicitaire hein, pour le Qatar. D'après la presse britannique, ça leur aurait rapporté 11 500 000 euros.
Ah ouais, en même temps, pour 11 millions d'euros, d'un seul coup, le Qatar, c'est génial, quoi.
Il a dit. C'est la petite phrase que tout le monde a retenue hein, dans la presse. C'est la perfection pour moi.
Le Qatar ?
Oui. C'est un endroit incroyable pour passer quelques jours. J'ai hâte d'y emmener mes enfants. Bon, quelques jours en même temps.
Non, pas dire que pour lui, là, une zone désertique, c'est génial. Quoi.
11 500 000 euros. Je te la refais
ouais,
voilà. Non, mais l'argent, ça fait quand même
ouais,
un peu de
ouais.
Alors, c'est vrai que du côté de par chez nous, pas grand monde hein, s'énerve. Alors, évidemment, on va toujours dire qu'on a l'extrême gauche. Qui évidemment critique ces grands rassemblements sportifs pour toutes les raisons que je viens de dire. On a évidemment du côté des Verts et la France Insoumise hein, une réaction hein, Jean-Luc Mélenchon avait dit les Français n'ont rien à foutre là-bas, c'était au moins assez cash. On aimerait que tous les membres de la France Insoumise soient de cet avis, mais c'est vrai que bon le boycott hein, sur ces jeux c'est la Coupe du Monde, c'est comme un peu les jeux en Chine ou quand c'était à Sochi finalement tout le monde y va et tout le monde est très content. Du côté par exemple de la France, il y a très très peu de réactions. Tout le monde semble finalement assez content de se dire qu'on y va là-bas. C'est pour faire du sport. Et puis il paraît que le sport ça aide à la démocratie, donc c'est pour ça qu'il faut aller en Chine ou au Qatar, parce que du coup on aide à la démocratie à s'installer. Alors pour la Chine on attend toujours, parce qu'ils ont eu quand même plusieurs JO hein, quand même, mais on attend toujours. Alors on a eu aussi le mouvement inverse de Vincent Landon, acteur français qu'on connaît parfois être un peu en colère, hein, ça arrive. Donc lui il a dit je ne regarderai pas le mondial, je pense que c'est une histoire répugnante. Alors c'est plutôt bien qu'il ait dit ça au micro de France Inter, parce qu'il nous faut un petit peu des personnalités qui quand même puissent leur avis. Le problème, c'est que Vincent Landau, il est tellement marqué à gauche par ses rôles et son intonation politique, quand même, hein, dans la presse.
Il aime bien ce genre de choses, donc du coup, les médias sont friands et on rentre dans un jeu et pas dans un. Ça manque de fond, du coup.
Non, mais il le dit vraiment, il a expliqué dans plein de trucs, vraiment des choses très très précises. Hein. Il explique on va aller faire un mondial dans un pays qui, sur le papier, avait zéro chance de l'avoir. Ni les spectateurs, ni les infrastructures, ni le climat. Pour la première fois dans l'histoire, la Coupe du Monde va se dérouler entre le mois de novembre et celui de décembre pour éviter les fortes chaleurs estivales du pays. Ils ont gagné contre les États-Unis, c'est de vous dire le nombre d'arrangements, de compromis ou de compromissions qu'il y a dû y avoir. On vous rappelle que cette Coupe du Monde est aussi suspecte hein, sur cette capacité à avoir obtenu hein, justement, ce pays quand même a obtenu quand même une Coupe du Monde. Voilà, donc il est allé sur France Inter, il est allé sur France 5 hein, dans l'émission C'est à vous, et il a dit on est dans un asile géant. La même année, il y a des Jeux d'hiver dans un pays où il n'y a pas de neige. Et après, il y a une Coupe du Monde dans un pays où il fait 60 degrés à l'ombre, où ils ont construit 10-12 stades réfrigérés et où c'est non seulement une aberration climatique, mais aussi une aberration écologique. Et en plus, il y a un non-respect de l'idéologie des droits de l'homme. C'est incroyable. Donc, on aimerait qu'évidemment plus de personnalités puissent s'engager dans ce discours et d'appeler à boycotter. Parce que lui, il a expliqué que s'il était, je ne vais pas vous le citer exactement, mais que s'il était une grande star de football, eh ben, il appellerait au boycott. Sauf que, bon, à mon avis, Vincent, tu peux faire coucou avec la petite main. Et puis, ben, personne ne va te répondre. Mais on a quand même dans d'autres pays aussi des actions, puisque par exemple, c'est Philipp Lahm, qui est l'ex-capitaine hein, quand même de l'équipe d'Allemagne, hein, membre de la délégation allemande de football, il a dit qu'il n'irait pas. il va rester chez lui. Mais il faut dire qu'il y a des sondages. Alors, c'est des sondages, vous savez, hein, si vous nous écoutez, ce qu'on peut penser d'un sondage dans cette émission. Mais on va quand même dire que ces sondages sont pas très bons hein, pour le soutien à la Coupe du Monde. Alors, on verra dans la réalité les spectateurs et les spectatrices, et en particulier téléspectateurs et téléspectatrices qui vont regarder cette Coupe du Monde en Allemagne. Mais ils sont un peu moins de la moitié à dire que c'est pas bien, en fait. En fait, il y en a plein qui disent qu'ils veulent regarder. 28%, c'est pas tant. Et puis je crois que 22% qui disent, ben en fait ils savent pas. Et puis tout le reste, ils trouvent que c'est pas bien quand même. Donc ça fait quand même, dans ce sondage, un écho dans la presse allemande qui dit, en fait, a priori, ici, les gens, ils sont pas très contents quand même. Voilà, il y a un certain nombre de personnalités qui quand même réagissent à tout ça, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup quand même de protestations. Alors il faudrait se souvenir, j'aimerais vous parler quand même d'une Coupe du Monde, si vous voulez bien, avant de vous parler quand même de l'andouille. Un jour on aura peut-être des soucis à force de traiter les gens d'andouille. Coupe du Monde en Argentine 1978, vous n'étiez peut-être pas né. En tout cas, 78, eh ben, on est sous la dictature du général Videla. Et pourtant, il y a une Coupe du Monde. On s'en souvient, pas trop, en fait, parce que le sport, ça va, ça vient. Et puis, on passe à autre chose. Alors, cette année-là, l'Argentine a gagné cette Coupe du Monde, il faut le dire. Mais très clairement, la compétition, elle a servi à Videla, ce dictateur, à se mettre en avant sur la scène internationale et à faire tenter, en tout cas, de faire oublier les horreurs qui sont en train de se passer dans le pays.
Attends, le Qatar, c'est une dictature aussi. Hein.
Ah oui? Mais pour l'instant, elle n'exécute pas tout le monde. Je te rappelle qu'en Argentine, les gens étaient exécutés dans des stades et que la Coupe du Monde s'est déroulée dans des stades. Et qu'il y a quand même quelques personnes qui, à l'époque, ont appelé à boycotter et tout ça. Alors malheureusement, il faut encore aller à l'extrême gauche, la LCR. Hein, mais il fallait aller dans des mouvements quand même assez précis pour se rendre compte qu'il y avait un mouvement de protestation. Je vous rappelle que c'est la période des desaparecidos, c'est-à-dire les disparus, qui ont longtemps été à la une hein, en Argentine, de ces hommes, de ces femmes militants, syndicalistes, simples aussi dénonciateurs et dénonciatrices de ce qui était en train de se passer. L'Argentine a à ce moment-là, sous cette dictature, tapé large pour s'en prendre à tout ce qui pouvait avoir l'air d'un opposant ou d'une opposante, avec évidemment le soutien des États-Unis d'Amérique qui souhaitaient éviter le communisme à ses portes hein, en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Donc là, on a cette dictature et elle pas grand monde se plaint et tout le monde va jouer. Alors, ce qui est intéressant aussi sur cette Coupe du Monde, parce qu'on nous dit dans la presse que là, le Qatar va tester son équipe. Le Qatar a un peu de chance de gagner quand même cette Coupe du Monde. Mais pour l'Argentine, c'était extrêmement important hein, pour cette dictature Videla de gagner cette Coupe du Monde, de faire connaître l'Argentine et de la replacer sur la scène internationale autrement que par des critiques sur les disparus et les morts. Et la répression des opposants et des opposantes. Donc, il va y avoir des tas de choses. D'abord, il y a des suspicions de corruption, de matchs arrangés. Il y a des petites choses qui font qu'il y a des décalages d'horaire entre les matchs aussi, qui ont permis à l'équipe d'Argentine de jouer après que l'équipe concurrente pour se retrouver, vous savez, hein, après, hop, tous ensemble à jouer, permettait de savoir s'il fallait gagner comme ci, comme ça, avec beaucoup de buts, pas trop beaucoup de buts. Donc, il y a eu tout un tas d'avantages qui ont été aussi validés par la FIFA. Et la FIFA avait mis quelques avantages en place avec des nouveaux protocoles et des nouveaux formats, et c'est essentiellement l'équipe d'Argentine qui a profité de cette mise en place, des nouveaux protocoles mis en place par la FIFA. Donc, il faut se souvenir de ça aussi et de cette corruption qui a eu lieu aussi pendant cette Coupe du Monde en Argentine en 1978. C'est qu'en fait l'Argentine a gagné, mais aussi parce qu'il y a eu des arrangements pour que cette équipe, au-delà de sa capacité sportive, puisse se placer correctement et arriver à la finale et battre les Pays-Bas. Donc on a oublié aussi cette histoire hein, en France de ces Coupes du Monde qui aussi sont à dénoncer et sont peut-être à remettre aujourd'hui encore en avant, pour pas oublier que le Qatar, effectivement, n'abat peut-être pas tous ses opposants, mais réprime ceux et celles qui ne sont pas dans la ligne dure du conservatisme religieux au Qatar, maltraite ses travailleurs, voire carrément les expulse et les fait travailler sans les payer en esclavage. Donc, on a une Coupe du Monde quand même à critiquer. Mais il y a un député de ce nouveau parti Renaissance, hein, je me gourre pas, hein, La République En Marche, qui... Il s'appelle Carl Olive, qui sur France Info, lui, a tout fait pour défendre cette Coupe du Monde et les nouveaux accords de partenariat sur la sécurité signés entre l'État français et le Qatar. Parce que oui, l'État français signe des accords de sécurité pour que tout se passe bien là-bas. C'est super sympa. Donc, il a dit qu'en fait, il fallait mettre ça en parallèle avec la construction de la Tour Eiffel.
Ah bon, c'est quoi le lien ?
déjà, on peut se demander pourquoi il va nous prendre la construction de la Tour Eiffel à une autre époque. Et même si c'était à l'époque, pourquoi est-ce qu'il faudrait dire bah, il y a eu des morts pendant la Tour Eiffel, la construction de la Tour Eiffel. Non,
mais les conditions de sécurité n'étaient pas les mêmes.
Alors, d'abord, en plus, il s'est gouré, puisqu'il explique qu'il y a eu 300 morts sur la Tour Eiffel pendant sa construction. Sauf que ça a fait tiquer quelques personnes. D'après les estimations actuelles, il y aurait 6500 travailleurs étrangers migrants qui sont morts hein, sur ces chantiers du Qatar.
C'est quand même beaucoup plus.
C'est quand même beaucoup plus. Sauf qu'il s'est fait taper sur les doigts Carl Olive parce que en fait, il n'y a pas eu 300 morts sur le chantier de la Tour Eiffel. Il y a eu un mort, un Italien qui en plus est intervenu une fois que la Tour Eiffel était construite et il est en fait décédé au moment de la mise en place de l'ascenseur. Et
comparé sur un chantier dangereux, expérimental comme l'était la Tour Eiffel, la construction de la Tour Eiffel, et un truc qu'on connaît où par choix que la sécurité elle est mise de côté, c'est quand même gonflé, hein.
Ouais, alors ça c'est complètement gonflé et puis c'est complètement faux. Donc il a raconté absolument n'importe quoi. Il y aurait effectivement plus de 300 morts, 370 morts qui sont liés à la Tour Eiffel, mais il s'agit d'accidents de touristes, de suicides, de gens qui sont montés sans autorisation, vous savez, par les côtés pour faire de la grimpette, tout ce qui est trucs ratés, défis, tout ça.
Donc enfin, on rappelle qu'à l'époque, les ouvriers quand même mouraient dans les forges, etc.
On est d'accord.
Les conditions de travail étaient exécrables dans ces hauts fourneaux, donc qui ont fabriqué les partie de la Tour Eiffel, donc indirectement la classe ouvrière était de toute façon
un rapprochement débile.
Voilà, c'est la même chose pour poser les rails, enfin voilà, c'était toute une branche de l'industrie où les travailleurs et les travailleuses morflaient vraiment beaucoup.
Et alors moi je vais enfoncer un peu plus Carl Olive parce qu'il y a Check News qui est le truc de vérification de Libération que vous connaissez peut-être. Il a reconnu avoir fait une sabonnette, je le cite. Il dit, alors il a été maire de Poissy, il se trouve qu'à Poissy, on a une maison Eiffel. Je suis un passionné. Bah, si t'es un passionné, gars, comment t'as pu le bourrer autant ? Non, je sais pas. C'est-à-dire qu'il s'enfonce encore lui-même derrière, mais c'est-à-dire qu'on en est là avec ce gouvernement prêt à tout pour défendre cette Coupe du Monde. Et je vais terminer, si tu veux le bien, par une dernière petite info. Moi, qui me fait marrer, c'est que vous le savez peut-être, quand on regarde en particulier du sport, mais surtout du foot, parfois on boit un peu d'alcool. Parfois on en boit même beaucoup. Et il y a dans certains pays dans lesquels il y a un peu une tradition, c'est avant ensemble de regarder un match de foot et de se bourrer la gueule.
Ouais, comme d'aller au concert et de boire des bières, quoi.
Voilà, voilà, voilà. Alors, le Qatar, je vous rappelle que c'est extrêmement réglementé. Alors, si tu es un étranger, tu peux. T'as pas le droit d'amener de chez toi de l'alcool, mais tu peux boire dans certains bars et certains restaurants d'hôtels. Ouais. Voilà, c'est assez précis, c'est assez cadré. Alors, évidemment, tout le monde s'est demandé est-ce que je vais pouvoir boire ma pinte de bière pendant cette Coupe du Monde, qui est là compliquée quand même, parce que pour y aller, il faut un peu dépenser les sous. Et puis.
En même temps, dans les stades en France, la panne de bière, elle a quasiment pas d'alcool.
Non, mais il n'y a pas d'alcool, c'est interdit, je crois, maintenant. Ouais. Selon les pays, il y a un certain nombre de pays comme la France, d'autres qui vont interdire l'alcool hein, dans les enceintes sportives, parce qu'il y a eu effectivement quelques abus et quelques gros problèmes. Mais il y a aussi les fan zones. Tu sais, ces fameux endroits où on te met un grand écran géant. Alors là, ils vont être carrément géants, hein, parce qu'il y en a une qui pourrait accueillir 40 000 personnes, quand même, donc hors du stade. Hein. Donc la question, elle est aussi de savoir si là les gens vont pouvoir boire. Alors, on ne sait pas bien ce qu'il en est, parce que pour l'instant, du côté du Qatar et des organisateurs après, et de la FIFA, on communique quand même pas beaucoup. Mais il est possible que tu puisses peut-être boire entre 22h et 1h du matin, c'est-à-dire une fois que le match en plus il sera fini, hein, c'est bête pour toi qui veux picoler. On apprend que peut-être que la pinte, elle sera à 6 euros, mais rien n'est pour l'instant très définitif, et surtout très, comme il n'y a pas beaucoup de communication là-dessus. La FIFA, elle par contre, elle est marrante, parce qu'elle a promis de la bière, du champagne, des vins et des spiritueux dans les espaces VIP. C'est-à-dire que quand t'es riche, en fait, tu vas pouvoir te bourrer la gueule. On en revient toujours à la même chose. Quand t'as du pognon, tu peux tout faire. Même au Qatar.
Tu vas parler de Mikhail Gorbatchev.
Oui, bah écoute, Mikhail, s'il te plaît. Non, c'est pas Mikhail Gorbatchev plutôt. On peut dire Mikhail, on sera très content. Alors, donc, vous avez appris que Gorbatchev est mort.
Un symbole important
91
de la chute du communisme.
Oui. Alors, je vais un peu... Je vais un peu adoucir ton propos.
C'est un personnage
chez nous, ici, en Occident, il est homme de paix, prix Nobel, c'est magnifique, il a libéré la Russie, on n'en est pas loin parfois avec certains observateurs, observatrices de la presse et certains journalistes et certaines journalistes. En tout cas, effectivement, il est synonyme de fin du soviétisme.
Il est acteur de la transition, ouais.
Ouais. Mais pour les Russes, il est d'abord le fossoyeur de la grande Russie soviétique et de l'URSS, évidemment. Donc, on peut dire qu'il y a les hommages qui ne sont pas géniaux en provenance de la Russie, que ce soit dans les médias ou de M. Poutine. Hein, M. Poutine
qui
a fait savoir qu'il était trop occupé. Et ben, il a une guerre sur le dos, attends, excuse-moi, quoi. Pour aller donc, il est trop occupé pour aller donc aux obsèques de M. de Gorbatchev. Mais c'est vrai qu'il faut rappeler quand même que. Il a amené deux choses, la perestroïka et la glasnost. C'est-à-dire la restructuration, la refondation de ce système soviétique et une ouverture du système politique aussi pour amener peut-être, soi-disant, plus de démocratie. Alors évidemment, dans les deux cas, il y a des pays qui se sont engouffrés là-dedans pour essayer effectivement de gagner leur indépendance. Donc du côté de la Russie, on attaque quand même le fossoyeur de cette grande Russie URSS. Et du côté de l'Occident, on dit quand même que c'était quand même un homme qui a amené la paix et puis qui surtout qui a amené l'indépendance. Alors dans notre pays, c'est pas tout à fait ça. Je vais vous parler de la Lituanie. La Lituanie, donc comme un certain nombre de pays de cet ex-URSS, a gagné son indépendance en 91. En tout cas, on va dire voilà. C'est l'année charnière pour tous ces pays. Et la Lituanie, dès 88, c'est-à-dire avant la mur du chute de Berlin, a commencé déjà à s'activer et se réveiller grâce à ces mises en place effectivement de Gorbatchev, qui lui-même s'est fait prendre à son propre jeu.
Oui, ouais, c'est ça. Il a été un acteur... À son insu, des fois.
Bah, il n'a pas voulu couler l'URSS, il faut être très très clair, il n'a jamais voulu qu'il y ait un démantèlement de cette Union soviétique. Simplement, il y a quand même des pays qui en ont profité, comme je vous le disais tout à l'heure, pour s'engouffrer dans ces possibilités, cette restructuration, cette refondation, et ont réussi, bien évidemment, jusqu'évidemment, après, avec le mur de Berlin, qui a été le symbole de la possibilité de casser ce système. Bon, là, il y a une réunification, évidemment, mais 91, c'est aussi le symbole de toutes ces indépendances. Alors, du côté de la Lituanie, on n'est pas bien d'accord avec tous ces hommages. On ne comprend pas, d'ailleurs, puisque en 88, donc, la Lituanie se met en avant avec son mouvement réformateur de Lituanie, ou Sąjūdis, excusez-moi pour la prononciation, qui va lancer des grandes manifestations pour l'indépendance. Tout ça se tient évidemment grâce à ce qu'a fait Gorbatchev. Et puis, lui, il va tenter quand même d'étouffer tout ça. Alors, il y a quand même il y a eu un procès qui s'est tenu pour savoir qui étaient les responsables d'un massacre qui a eu lieu en 91, c'était en janvier. Le 13 janvier, il y a un assaut qui est donné pour lever un mouvement de foule qui s'était réuni autour de la télévision, du bâtiment de la télévision, de la tour de la télévision. 14 morts, des blessés, beaucoup, par centaines, et la Lituanie a cherché ses responsables. Gorbatchev n'a jamais réussi à être dans la ligne de mire de la justice, c'est-à-dire qu'à chaque fois, les procureurs qui travaillaient sur la question l'ont épargné, il faut être très clair. Donc la Cour suprême a rendu un verdict définitif le 30 juin dernier. 67 personnes, dont l'ancien ministre de la Défense soviétique, ont été condamnées pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le plus souvent par contumace, je veux dire, on est dans une affaire quand même qui est plus tout à fait récente, mais c'est vrai que pour les descendants des victimes, il y avait quand même une envie de mettre Gorbatchev au cœur de ce procès, parce qu'il était le grand chef et qu'il a certainement permis tout ça. Donc, il y a aussi des pays donc qui rappellent par ce non-hommage à Gorbatchev en France, on n'a pas eu l'Union soviétique sur notre territoire. Alors on critique très facilement et heureusement le nazisme et cette Allemagne nazie. Par contre, on a beaucoup de mal à être très critique avec ce soviétisme. Alors je vous parle pas de cette extrême gauche qui a failloté avec ce soviétisme, mais on a du mal à le critiquer et parfois même on en rigole de ce soviétisme, on peut en faire des blagues, alors qu'en fait il y a des pays, ça les fait pas du tout marrer, parce que ils ont extrêmement subi, ils ont été réprimés, ils sont morts à cause de ce soviétisme, et parfois même c'est le nazisme qui les a libérés. Donc on a des pays qui comprennent pas bien pourquoi en Occident on rend des hommages fabuleux à Gorbatchev, assez peu teintés de critiques quand même. Moi j'ai relu toute la presse, alors on a un petit peu quelque chose de... Oui, bon, ok, il a quelques critiques, quelques problématiques. Ok, il voulait pas casser la grande URSS, mais finalement, il y a assez peu de critiques sur tout ça. On le voit quand même comme le grand pacificateur sur la guerre froide.
Ouais, c'est quand même un peu le cas, parce que quand il s'est rendu compte que tout lui échappait et que ça allait tout être démantelé, il aurait pu tout reprendre en main et balancer des bombes et faire son Poutine. À l'époque, il a préféré finalement, où il a été faible, je ne sais pas quelle est la raison exacte, je ne suis pas spécialisé Gorbatchev, mais il a laissé faire les choses. C'est pour ça que c'est considéré comme un homme de paix, parce que quand ça lui a échappé, ben il a laissé le truc s'échapper.
Ouais, alors juste pour dire, le ministre de la Défense lituanien, dont je vais vous épargner le nom parce que je vais l'écorcher, ça va être très très moche, il a expliqué qu'en fait, alors selon les traductions, c'était un criminel ou un assassin. C'est pas facile, le lituanien, qu'il a ordonné de réprimer les manifestations pacifiques à Vilnius, Tbilissi, Almaty, Bakou, et dans d'autres villes, il n'avait aucune pitié, c'est ce qu'il a déclaré. Et le ministre des Affaires étrangères, lui, a déclaré que les Lituaniens ne glorifieront pas Gorbatchev, nous n'oublierons jamais le simple fait que son armée a assassiné des civils pour prolonger l'occupation de notre pays par son régime. Donc voilà, je voulais juste mettre en porte-à-faux que tout n'était pas rose avec monsieur Gorbatchev.
Oui, forcément.
Allez, c'est à toi.
Alors, on va parler juste, on va passer à la rubrique nationale et on va parler d'un petit peu d'énergie, puisque le gouvernement a annoncé une énorme ambition, alors pas toujours crédible, d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables. Alors, ça sera bientôt au cœur d'un projet de loi sur cette accélération de ce déploiement des énergies renouvelables. Mais ça se voit déjà, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, de voir le comportement du gouvernement. Le 30 août dernier, donc il y a deux jours, à la demande du ministère de la Transition énergétique, la Commission de régulation de l'énergie, celle qui gère le CRE en acronyme français, a publié des versions modifiées des 17 cahiers des charges attachés aux appels d'offres actuellement en vigueur, des appels d'offres sur des projets photovoltaïques au sol, sur des bâtiments, sur des projets hydroélectriques, sur des projets d'éoliennes terrestres. Cette décision, c'est sur une modification de l'article RT 311, machin, on s'en fout du nom, mais ça implique trois modifications importantes. La première, c'est une prolongation des délais d'achèvement des installations. On sait que normalement, il y a un délai, l'installation doit être finie à telle date, si tu rentres pas dans le cahier des charges, tu as des pénalités, tout ça. Là, ils allègent à mort. Alors, c'est lié, entre autres, au problème d'approvisionnement en termes de matériaux. Ça redonne un peu de liberté aux entreprises qui installent ces projets. Alors, c'est pas le plus important. Le deuxième point, c'est la possibilité, et ça c'est beaucoup plus important idéologiquement, c'est que les projets qui ont été validés, signés par l'État, ceux qui sont à l'origine des projets, peuvent modifier la puissance jusqu'à 140%. C'est-à-dire qu'ils ont prévu tant d'éoliennes pour faire tant de mégawatts, mettons 100 gigawatts, on va taper dans un truc pas gros, 100 gigawatts, ils auront droit, sans rien dire, enfin juste en le prévenant, de passer à 140 gigawatts. Ça veut dire qu'ils redonnent de la liberté d'aller un peu plus loin que ce qui a été signé. Alors symboliquement, c'est fort. Alors le dernier point que j'ai perdu, c'est que si l'installation est finie avant la date prévue, l'entreprise qui a installé, qui possède le champ d'éoliennes, des choses comme ça, ils vont pouvoir revendre, avant de revendre à EDF avec un contrat qui a été signé, qui a permis de financer l'installation, qui a un contrat à peu près de 80 euros le mégawattheure. Il faut savoir qu'aujourd'hui on est à 1000 euros le mégawattheure. Donc avant, s'ils arrivent à construire avant, ils ont le droit avant la date officielle d'entrée en lice du contrat avec EDF, avec l'État, parce que c'est l'État maintenant, de vendre sur le marché. Donc là, ils vont faire entrer du brousouf, quoi. Hein, ils auront le droit de vendre au prix du marché. Alors, pourquoi il y a ces trois modifs? En fait, ça montre la panique du gouvernement. Le gouvernement est coincé, c'est pas quoi faire. On a des gros problèmes d'énergie liés à une imbécile politique nucléaire, aussi à la guerre. Mais les coûts de l'énergie avaient boosté depuis 2 ans, hein, donc c'était pas lié à. Il n'y avait pas encore Poutine qui avait envahi l'Ukraine. Donc il y a plein de choses qu'on fait que voilà, il y a des soucis sur le prix de l'énergie. Et là, on sent la panique. C'est réellement la panique, c'est-à-dire que avant la loi, on lâche tout. Mais le but, c'est que, oui, celui qui a prévu de construire 10 éoliennes, s'il en met 14, on l'autorise, sans rien changer. Tout est fait pour accélérer les chantiers pour augmenter la puissance des chantiers. Voilà où ils en sont. Alors ça, c'est juste ridicule. Alors c'est bien, dans le principe, ça va lâcher un peu des trucs, mais c'est juste, ça montre juste qu'ils se retrouvent face à des situations qu'ils sont incapables de gérer. Incapables. Ils sont complètement dépassés par le système. Alors, faut savoir que ces projets, ça concerne 6 gigawatts au total. Il y a 3 gigawatts, un peu plus de 3 gigawatts dans l'éolien et 2,7 gigawatts dans le solaire photovoltaïque. Donc, c'est pas des puissances énormes, mais c'est quand même déjà pas mal. Et puis, ça montre que c'est une des priorités et qu'ils commencent avant les projets de loi. Alors, si vous avez fait gaffe, hein, hier, Elisabeth Borne a fait son grand discours de rentrée avec plein de propagande dedans. Elle a dit qu'elle allait donner les 60 priorités de son gouvernement en dehors de faire chier les travailleurs pour les obliger à travailler plus longtemps. Hein. Et elle a dit que dans les cas de bataille, il y aurait la transition écologique. Alors, bien évidemment, ce gouvernement, Macron, tous ces gens de ce parti, ils sont pas du tout crédibles en termes d'écologie. Ils ont fait passer majoritairement des mesures anti-écolo. Mais, dans le domaine de l'énergie, comme je l'ai dit, c'est la panique. Ils sont coincés. Et c'est une très bonne nouvelle que ce soit la panique. Pourquoi ? Parce que dans une situation d'urgence dans laquelle on est, c'est les renouvelables qui tirent leur épingle du jeu. Pourquoi ? Parce que pour installer des grosses éoliennes, des champs d'éoliennes en mer, pour installer des gros panneaux des gros systèmes de panneaux photovoltaïques, bah il faut en moyenne 3 ans dans l'Union européenne, un peu plus chez nous, mais là les délais vont être raccourcis. Pour le nucléaire, c'est 4 fois plus long. Donc, comme c'est la panique, ils sont obligés d'inciter à l'installation de systèmes d'énergie renouvelable. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ils n'ont jamais été écolos, mais sur le domaine de l'énergie, ils vont être obligés de l'être. Parce qu'ils étaient mauvais pendant les 5 années d'avant. Voilà. Et ils ont été ridiculisés tout l'été, le gouvernement français. Et EDF, parce que maintenant c'est la même chose. L'Allemagne produit 49% de son électricité grâce à du renouvelable. La France, c'est la moitié. En 2030, l'Allemagne, ça sera 100%. La France sera toujours à 35, à tout casser, 50 si jamais on gagne au loto. Mais enfin voilà. Ridiculisé. L'Allemagne a produit plus en électricité avec son photovoltaïque que la France avec son nucléaire. Imaginez, l'Allemagne, c'est pas le pays où il y a le plus de soleil au monde, ils sont arrivés à produire plus que les centrales nucléaires. Alors imaginez le potentiel du photovoltaïque dans un pays qui est bien plus ensoleillé que l'Allemagne, comme la France. Il y a un potentiel énorme. Et du coup, ça, toutes ces histoires de cet été, hein, voilà, où on commence à découvrir ce que c'est qu'une condition extrême liée à des changements climatiques, eh ben, ça casse le discours nucléophile du gouvernement. Ils vont le garder le discours, mais dans les faits, ils vont être un peu plus limités. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, on n'a pas grand espoir sur le reste. Hein, les vraies mesures qu'il aurait fallu prendre il y a 2 ans quand les coûts de l'énergie ont commencé à exploser, c'est-à-dire des incitations ultra fortes à l'isolation extérieure des bâtiments. En 2 ans, on aurait pu en isoler énormément. Sauf que actuellement, il y a des contraintes énormes, notamment issues des bâtiments de France, qui interdisent carrément l'isolation extérieure à plein d'endroits. Hein, vous habitez dans Lyon, à Montchat, c'est interdit. Vous habitez sur le pont de la Croix-Rousse, c'est interdit. Voilà, ils interdisent l'isolation de l'extérieur par les méthodes classiques, c'est-à-dire à des prix abordables. C'est des choix idéologiques. Ça, le gouvernement, pour l'instant, ils en parlent pas, ils osent pas, ils ont pas de courage. Sur les déplacements, c'est pareil. Le gouvernement, on attendait des choses. L'Espagne a fait les trains gratuits cet été. L'Allemagne a fait que pour un ticket de 9 euros par mois, pour le mois entier d'août, on pouvait prendre, les Allemands pouvaient prendre tous les trains et tous les transports en commun de tout le pays. 9 euros. Et Elisabeth Borne, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui ? Elle baisse le coût de l'essence. Donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle continue de soutenir le tout-voiture et l'industrie automobile. On en est là. L'Allemagne essaye de détourner les gens de la voiture pour différentes raisons, écologiques et aussi du coût, hein, parce que on rappelle, 9 euros pour prendre tous les transports en commun, une bagnole, ça coûte 300 à 400 euros par mois. Hein. Donc voilà. Donc là, le gouvernement, on a bien compris qu'ils étaient à la rue. On l'a vu sur les actions sur les méga-bassines cet été. Hein, quelques-unes ont été attaquées. Bravo les militants et les militantes. Ces méga-bassines hein, qui ponctionnent l'eau des nappes phréatiques, qui empêchent l'eau des nappes phréatiques d'aller dans les nappes phréatiques quand il pleut. Et tout ça pour faire pousser en général un inutile maïs. Ces politiques promues par la FNSEA sont toujours soutenues par le gouvernement, qui est resté complice tout l'été, alors qu'il y a eu des actions de militants et de militantes. Donc pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'espoir, mais sur l'énergie, ils sont coincés. Le renouvelable, c'est tellement plus facile à mettre en œuvre qu'ils vont être obligés, malgré eux, d'en mettre en œuvre un petit peu plus que ce qui était prévu.
Je vais juste rajouter un mot sur cette question d'énergie. C'est que du côté du gouvernement, on a toujours des grandes idées. Donc la grande idée, elle vient de Stanislas Guérini. Vous savez, c'est le ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Moi déjà, le nom, Transformation et Fonction publique, je ne comprends pas.
La transformation, c'est de le rendre pas public.
Alors, c'est pas transformation de la fonction publique, mais on va pas piloguer sur cette question, mais enfin, je veux dire, c'est quand même curieux. En tout cas, Stanislas Guérini, donc ministre, a expliqué sur CNews le 26 août dernier, c'était un vendredi, qu'il fallait développer le télétravail des agents publics afin de pouvoir fermer des bâtiments et ainsi ne pas les chauffer, ne pas les éclairer. C'est une bien grande idée quand même de mettre les travailleurs et les travailleuses de la fonction publique d'État, donc chez eux, à domicile, pour que l'État.
Ils payent leur chauffage.
Et pour que l'État fasse quelques économies quand même.
Voilà, Autant vous dire que
j'ai été faire le tour de ce que pensent les syndicats sur cette question. Et comment dire, j'ai pu lire à des endroits qu'il y avait eu de vives critiques. Alors je crois qu'on est au-delà de la vive critique. Je vais commencer juste par le trait de base, la CFE-CGC, qui dit si l'idée mérite d'être approfondie, je vais même oublier le reste. Bon. Pourquoi l'idée, elle mérite d'être approfondie? Dis-moi, la CFE-CGC. Non, l'idée, elle va pas être approfondie. Parce que, dans les autres syndicats, qu'est-ce qu'on dit? On dit, alors, du côté de FO fonctionnaires, ce n'est pas avec ce genre de proposition que le ministre va inciter les agents à télétravailler. C'est une mauvaise idée qui renvoie vers les personnels et à leur domicile les coûts en matière d'énergie, tout simplement. Vers la CFDT fonction publique, il ne sera pas acceptable que la sobriété de l'État se traduise par de 5 transferts des charges vers les agents et leurs familles. Du côté de la CGT fonction publique, ce n'est certainement pas la solution de renvoyer les agents travailler chez eux. Le télétravail est un mode de travail et non une mesure pour restreindre les dépenses de l'État. Et du côté de Solidaire Fonction Publique, on dit avec un dégel du point de 3,5% qui ne couvre ni les pertes accumulées ni l'inflation, le ministre propose désormais que les agents payent les factures à la place de l'État. Il faut répondre à la crise écologique avec une vraie rupture, pas sur le dos des agents. Donc tout le monde semble d'accord. Non, Stanislas, tu t'es gouré, t'as mis une grosse boulette. Alors en plus...
En même temps, il fait ce que l'éducation nationale fait depuis des années.
Oui, mais... y a une... Alors, l'éducation nationale, oui, c'est une chose, mais dans la fonction publique d'État, il y en a beaucoup d'autres. Hein. C'est pas une pratique forcément habituelle, ce télétravail, déjà, ça s'est mis en place très doucement, parce qu'il y avait aussi de la réticence. Et quand c'est choisi et voulu, c'est choisi et voulu. Et puis, il y a surtout, vous savez, si vous faites ça dans le privé, enfin, j'espère que vous savez, vous avez une prise en charge. Alors, c'est des barèmes URSSAF, c'est très particulier. Et puis après, on peut prendre aussi en charge votre téléphone, hein, votre Internet. Voilà. Mais il y a quand même.
On vous fournit l'ordinateur, tout ça.
Alors, on doit vous permettre de travailler correctement, effectivement. Mais c'est vrai que les syndicats estiment aussi qu'aujourd'hui, l'indemnité aux agents de la fonction publique, c'est 2,5 euros par journée de télétravail effectué. C'est pas terrible. Et que, alors, si en plus, il faut se taper et son électricité et son chauffage cet hiver, ça va être non. Mais voilà une idée bien débile.
Tu voulais parler des camps de redressement là.
Ouais, je vais dire aussi très très vite, comme ça te permettra de terminer aussi avec l'extrême droite au niveau local. Juste pour que l'État, il a aussi des idées très très ma foi très 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 stupide, mais aussi très fascisante. C'est Monsieur Darmanin qui a des idées tous les 4 matins, lui aussi. Il a un compte Twitter extrêmement actif, hein, que ce soit lui qui soit derrière ou une petite main, en tout cas, c'est ses idées, on les reconnaît parfaitement. Il a eu plein d'idées cet été pour lutter contre la drogue. Donc je dis pas, si t'as 18 ans, mon ami, fais gaffe à toi, et si t'en as 58 et que tu croyais que la guerre contre toi, fumeur de joint, était finie, eh ben c'est non. Non, non, la guerre, elle est toujours contre toi, puisque M. Darmanin a plein d'idées. Mais il a plein d'idées aussi, et ce sont des idées d'ailleurs de M. Macron, puisqu'il était à Mayotte. Et à Mayotte, il a lancé l'idée de lieux de rééducation et de redressement pour les mineurs délinquants, organisés, encadrés, tout ça par les militaires. Et oui, à l'ancienne.
Oui, on se rapproche, on avait ça dans les années, jusque dans les années 80.
Alors, il y a eu ça même après. Simplement, ça marche pas. Tout le monde dit que jusque 2004, il y avait un programme avec des militaires. Oui. Sauf que tout le monde reconnaît une chose, même les militaires eux-mêmes dans un rapport, c'est qu'en fait qu'ils ne savent pas faire.
Bah, c'est pas ça leur métier.
Voilà. Donc il y a eu, c'était les jeunes en équipe de travail, ouais, fermé 2004-2005, les derniers partenariats avec l'armée qui, dans un rapport, a dit nous ne savons pas faire, nous sommes nuls. Et donc c'est dans le programme de M. Macron, cette idée d'avoir des centres spécifiques pour les délinquants, avec l'idée qu'on ne va pas les mettre avec les grands, qui eux sont délinquants plus grands. Donc évidemment, bien évidemment. Mais enfin, on n'est pas non plus obligé de les mettre derrière des bâtiments hein, quand on est délinquant mineur. Il y a des tas de possibilités pour un certain nombre d'entre eux et d'entre elles de faire autrement que tout de suite faire des camps. Mais en tout cas, l'idée du camp est quand même bien là, présente dans ce programme de M. Macron, et il est encore là puisque M. Darmanin en parle. Alors, il cherche un petit peu des manières de le dire, de le citer entre camps, lieu de rééducation, déjà, lieu de rééducation, hein. Attention, hein, ça... et de redressement. J'adore quand même ces termes, c'est quand même une terminologie très précise. Je vous rappelle que M. Dupond-Moretti voulait mettre en place un partenariat avec Florence Parly, hein, c'était à l'époque, un partenariat entre le ministère de la Justice et celui des armées pour l'encadrement de certains mineurs ou jeunes majeurs délinquants. Donc ça fait vraiment partie de cette idée du gouvernement en place actuellement et de notre président, M. Macron.
Alors on va faire une info locale maintenant et on va aller au Puy-en-Velay. Je ne sais pas si vous connaissez le Rafale 43. Ça veut dire le rassemblement, c'est un acronyme qui veut dire Rassemblement antifasciste de Haute-Loire.
Alors moi, tu sais, quand tu dis Puy-en-Velay, déjà, je pense Wauquiez.
Oui, bah, c'est tout à fait la Haute-Loire.
C'est juste pour rappeler qu'il y a des petits. Voilà.
Et donc, ce rassemblement antifasciste de Haute-Loire appelait samedi dernier une mobilisation contre la venue d'une personne qui n'est pas très sympathique, qui s'appelle Hilda Lefort. Elle venait faire une conférence dans une librairie d'extrême droite qui s'appelle Art enraciné. Et sa conférence s'appelait La hiérarchie raciale et le racisme bien compris. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est un truc pour. Ils sont racistes. Hein. Bon, voilà, c'est pas un truc antiraciste. D'ailleurs, Hilda Lefort, on connaît pas son vrai nom. Enfin, je suis pas arrivé à trouver. C'est une militante d'extrême droite, donc qui collabore avec un site là, qui s'appelle Jeune Nation, un truc de néo-nazi. Et en fait, c'est pas son vrai nom et c'est un acronyme d'Adolf Hitler. Hein. Donc, ça situe un peu le niveau. Hein. On est vraiment dans le néo-nazisme. Alors comme d'habitude, et notamment dans cette ville qui est quand même très à droite, hein, très traditionnaliste, très religieuse là, du Puy-en-Velay, et sous le fallacieux prétexte d'éviter tout risque d'affrontement entre les partisans des deux camps, soi-disant, le préfet de Haute-Loire a pris un arrêté interdisant toute manifestation dans le périmètre du centre-ville. Une interdiction soi-disant justifiée par le fait que le rassemblement des antifas n'était pas déclaré en préfecture et puis qui pouvait générer de graves troubles à l'ordre public dans un contexte où le centre-ville, je cite, hein, le centre-ville du Puy-en-Velay accueillait ce jour-là plusieurs manifestations culturelles, économiques et festives. Bon, le préfet aime pas les antifas, il a interdit, il avait peur que ça se batte, tout ça. Bizarrement, il avait été choqué ni par le racisme porté par cette conférencière, hein, je rappelle l'acronyme d'Adolf Hitler, ni par la présence renforcée de l'extrême droite néo-nazie dans le centre-ville du Puy-en-Velay. Ça l'a jamais choqué, bizarrement. Hein. Alors, au final, la militante nationaliste n'est pas venue au Puy-en-Velay. Quelqu'un d'autre de son clan de petits fachos a fait une conférence à la place. L'appel à mobilisation a été maintenu. Alors, ils n'étaient pas très nombreux, c'était une vingtaine à se réunir sur la place Cadelade. En toute légalité, hein, puisque cette place, elle se situe pas dans le périmètre interdit. Mais bon, hein, ils étaient 20, ils ont, ou 30, je sais pas. Et ils se sont dit, on va quand même s'approcher. Ils sont partis en truc sauvage. Et ils ont été stoppés par un cordon de police, forcément. Et la préfecture a signalé qu'il y aura donc des verbalisations. Ça, c'est la directrice départementale de la sécurité publique de Haute-Loire, qui s'appelle Christelle Pinchon, qui a dit ça. Puisqu'ils ont contrôlé certaines personnes et d'autres ont été identifiées par les policiers qui étaient porteurs de caméras. Elle aussi, elle verbalise donc les antifas parce qu'ils n'étaient pas dans la bonne zone. Par contre, elle n'est jamais gênée, elle n'intervient pas, elle ne fait rien contre le racisme porté par cette librairie d'extrême droite, par la conférence qui était prévue et par la présence dans sa ville hein, de néo-nazis. Là, ça la gêne pas. Vous me direz, on a l'habitude, à Lyon on a la même chose, ça fait juste vomir. Et ça s'arrête pas là, parce que la préfecture va aller encore plus loin, comme chez nous d'ailleurs, elle va faire un choix politique. Et comme toujours, elle le fait en faveur de l'extrême droite. Donc, en fait, il va se dérouler deux choses à peu près en même temps, aux mêmes endroits. Elle va choisir de s'occuper des militants antiracistes, de les emmerder, de les contrôler et de les empêcher de passer. Et elle va laisser quatre individus, notamment, tabasser quelqu'un dans une rue juste à côté. Alors lui, il dit, moi je venais pas à la manifestation, au rassemblement, je passais là. Le problème c'est qu'il avait un t-shirt Sainte Paoli. C'est un club de foot allemand qui s'est positionné contre l'extrême droite, contre l'homophobie. C'est un club de foot avec un discours militant. Et donc, à cause de ce t-shirt, il s'est fait tabasser. Sa copine a pas réagi. Elle a juste vu la violence se déchaîner contre son copain. Les gens ont réagi dans la rue en criant, en hurlant. Bon, les flics sont pas venus, bien évidemment. Il fallait laisser les fachos agir. Et à la fin, les fachos sont partis en courant. La victime explique qu'en fait, il cherchait juste quelqu'un casser la gueule, parce qu'ils n'avaient pas pu s'en prendre aux antifas qui étaient à côté, qui étaient en démêlé avec leurs copains de la police. Donc voilà, le couple va être amené par les pompiers aux urgences. Donc la victime sort avec des hématomes et des points de suture au visage quand même. 8 jours d'ITT, d'interruption de travail. Sa compagne qui a eu du mal à supporter ce qui s'est passé après 5 jours d'ITT aussi. Voilà. Alors, le lien avec la librairie fasciste est claire, puisque un militant d'extrême droite, clermontois, a posté des photos sur Instagram en disant « Ouais, c'est nous qui avons agressé tout ça », et alors qu'il y a des photos de lui devant la librairie pour faire le service d'ordre. Donc voilà, le lien, il est clair. Bon, ça n'empêche pas la préfecture de laisser faire. Voilà, la préfecture fait des choix. Elle a préféré s'en prendre aux antifas et laisser les fachos tabasser quelqu'un qui n'était même pas en lien avec le truc, mais quelqu'un qui portait un t-shirt militant. Voilà. Et pendant ce temps-là, à Lyon, tout va bien. La police a débarqué en quantité incroyable à la Guillotière. Pas seulement dans des cartes CRS, mais dans les rues. Il y a des patrouilles en permanence. L'image que ça donne, c'est le Chili des années Pinochet. Là, on a l'armée dans les rues. Là, c'est ça. Donc, je sais pas comment les gens vivent cette occupation policière, quasi-militaire. En tout cas, Darmanin est censé venir lundi à Lyon pour se glorifier de tout ça. Darmanin qui finalement met en œuvre toutes les idées, quasiment, de l'extrême droite. L'extrême droite a même pas besoin d'être élu, puisque il y a Gérard Darmanin, il est là, il est xénophobe, il met de la police partout, du contrôle partout, de la liberté nulle part, bien évidemment.
Oui, il y a des féministes aussi qui appellent.
Alors, du coup, il y a une double mobilisation, 2 appels le même jour. Les féministes appellent donc Place du Pont à 9h, et un groupe d'antifa appelle au même endroit à 10h, donc ils sont pas coordonnés sur l'heure, mais l'idée c'est de rester toute la journée, faire un truc un peu festif et d'être visible pour dire voilà, la Guillotière elle est pas c'est pas un lieu de police, c'est pas un lieu de où les idées d'extrême droite doivent s'exprimer, c'est juste voilà un lieu de vie.
Oui, c'est juste pour dire qu'on dit les féministes parce qu'on parle un peu vite. Il s'agit des féministes de femmes qui habitent ce quartier et qui n'ont pas envie de voir Monsieur Darmanin accusé de viol par plusieurs femmes se balader en bas de chez elles. Voilà, il y a aussi une réalité, hein, c'est que il cumule un peu Monsieur Darmanin quand même dans la détestation.
Oui. Qui provoque. Entre les idées d'extrême droite et ces affaires de viol, effectivement, même si pour l'instant la justice s'est arrêtée.
Voilà, donc donc c'est effectivement à suivre si ça là vous intéresse, et en particulier si vous habitez ce quartier. C'est pas dit qu'il aille à la Guillotière.
Hein, non, en fait, personne ne sait rien. En fait,
il y a quand même une idée qu'en fait, si ça me demanderait un tel arsenal justement policier autour de lui, sécuritaire, que ça risque de pas se faire. Ce qui risque, par contre, d'être très intéressant, ça pourrait être sa rencontre avec le maire de Lyon.
Qui avait refusé de le voir la fois d'avant.
Voilà, on va voir ce qui se passe parce que ça peut être très très rigolo. Enfin, je sais pas pour qui. Peut-être pas pour eux, mais pour nous, ça peut être super rigolo. Voilà,
il est 20h03. Nous avons dépassé de 3 minutes, mais comme il n'y a pas d'émission derrière nous, nous avons pris cette liberté.
Ouh là là. Ouais. On vous rappelle que beaucoup d'émissions sur Radio Canu ont des blocs qui vous permettent de réécouter les émissions si vous les avez pris en cours de route, si vous les aimez tellement que vous voulez les réécouter ou si vous voulez les partager ou si vous n'avez pas eu le temps de les écouter en direct. Tout ça se retrouve donc à partir du site de Radio Canu. Vous avez la grille des programmes, tout ça va se remettre en place doucement parce que chacun et chacune rentre aussi de ses vacances et de son repos radiophonique. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, si tu veux bien.
Oui.
Ouf, il a l'air emballé, dis donc.
Je serai là la semaine prochaine.
Ah, j'aime mieux ça. On vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Et... Ciao.